Nous lisons le texte du jour, un texte bien connu de l'Évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37. Il s'agit de la parabole du bon samaritain, mais je ferai précéder cette lecture de la lecture d'un petit verset qui précède cette parabole, qui est aussi au chapitre 10. Au verset 4, il s'agit d'un tout petit texte extrait de l'envoi des 72, lorsque Jésus envoie ses 72 disciples. Il leur dit ceci: « Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quiconque. » Et puis donc, les versets 25 à 37 du même chapitre, la parabole du bon samaritain, que voici. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda: « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» L'homme répondit: « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors: « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus: « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit: « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta: « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le maître de la loi répondit: « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit: « Alors, va et fais de même. » Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 380 dans les petits livret louange et prière, au cantique 380, les strophes 1, 2 et 3.
Venez au Sauveur qui vous aime. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, vers la demeure. Jésus est ici dans la foule. Attendez-lui la main. Oh, quel beau jour au soleil d'elle, quand nous appuyons sur ton bras.
Seigneur, que ta parole, agissant en nous, ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Vous venez d'entendre quelques mesures en mode mineur de notre hymne national. Tout simplement parce que la proximité du 14 juillet nous rappelle cette histoire qui, au moment de sa commémoration, est aussi un peu notre actualité. Et l'on a souvent dit que prêcher, c'était mettre en lien un texte ancien de la Bible avec notre actualité. Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples. Tout d'abord, en ce qui concerne les commémorations, la mémoire que nous avons d'un passé récent, l'actualité donc d'événements inscrits dans notre histoire est relative. Pour les uns, nous pensons au 14 juillet 1789, mais pour d'autres aussi, ce 11 juillet 2010, c'est se rappeler qu'il y a 15 ans, jour pour jour, la ville de Srebrenica était le lieu d'atrocités sans nom. Pour d'autres encore, c'était il y a 6 mois, jour pour jour, le séisme qui touchait Haïti. Donc, vous le constatez, ce qui marque nos mémoires aujourd'hui diffère. Et puis pour s'éloigner de la mémoire et en venir au présent, là aussi l'actualité a de multiples facettes qui ont plus ou moins d'importance dans nos vies. Pour les uns, le contexte dans lequel s'inscrit le présent est heureux ou malheureux. Les uns viennent de vivre une souffrance qui les marque, d'autres encore une joie qui les comble. D'autres ensuite sont dans une attente angoissée, problèmes d'emploi, de santé, de parcours d'études. Et puis, il faut bien le dire, l'actualité que les médias nous imposent a besoin, elle aussi, d'être triée. Pour les uns, c'est bien entendu le résultat de la Coupe du monde de foot ce soir, et en arrière-plan, la marée de mots qui ont été déversés sur le contexte français de ce mondial. Pour d'autres, c'est la triste image que donne notre monde politique ces derniers jours. Pour d'autres encore, l'actualité, ce sont les sombres pronostics que font certains responsables de la stratégie de grands groupes bancaires en ce qui concerne les indices économiques du deuxième semestre 2010. Donc vous voyez, l'actualité, c'est une question de point de vue. Un point de vue dont il faut parfois justement se détacher, et c'est ce que je me propose de faire aujourd'hui en reprenant avec vous la lecture de ce texte si connu du bon samaritain. Car l'actualité, et je dirais l'actualité avec un grand A, c'est ce Jésus de Nazareth, mort et ressuscité, vivant aujourd'hui, nous convoquant aujourd'hui pour un culte qui n'est pas un moment sacré, mais tout simplement la réponse toute simple à un appel qui résonne aujourd'hui pour nous, ici et maintenant. Et il se trouve que le texte dont il nous est suggéré de faire mémoire aujourd'hui est ce récit du bon samaritain. Alors, dans l'entrelacement de nos différentes actualités, je vous propose maintenant d'entendre ce que ce texte nous dit de nous et de notre manière de vivre ensemble, les uns avec les autres, aujourd'hui. Alors, la parabole du bon samaritain a fait l'objet de multiples interprétations tout au long de l'histoire. Je fais un retour en arrière. Dans les temps anciens, prévalait ce que l'on appelle l'exégèse allégorique. Origène, qui vivait dans la première moitié du IIIe siècle et qui est, pourrait-on dire, le père de l'exégèse biblique, avait mis au point une méthode de lecture qui visait à dégager le sens spirituel des textes où l'allégorie tenait la première place. Ainsi, pour notre texte, cela donnait la lecture suivante. Le voyageur, c'est Adam, le premier homme, qui doit quitter Jérusalem, le paradis originel, et aller vers le monde, c'est-à-dire Jéricho. Assailli par des brigands, c'est-à-dire les puissances ennemies qui peuplent le monde, il est entraîné dans la désobéissance. Ce sont toutes les blessures reçues. Le prêtre, qui représente la loi, et le lévite, qui représente les prophètes, sont inefficaces. Par contre, le samaritain, le Christ, apporte la guérison, le salut. L'auberge, c'est l'Église, qui est ouverte à tous les blessés de la vie. Et bien entendu, la promesse de revenir, c'est l'annonce du retour du Christ. Cette lecture a fondé ainsi toute une théologie de l'imitation de Jésus-Christ. « Va et fais de même », dit Jésus au scribe dans le texte qui encadre la parabole. Ainsi, le croyant doit être lui-même, à l'instar de Jésus, le Samaritain, celui qui doit avoir compassion pitié de ceux qui sont tombés aux mains des brigands. Vous devinez aisément la suite. À la question qui a provoqué ce récit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? La réponse se trouve dans ce commandement tout simple. Comporte-toi comme le Samaritain qui n'a pas craint de s'arrêter sur son chemin pour redonner la vie là où elle était menacée. Alors cette lecture a été dominante au cours des siècles et elle a parfois permis de soutenir des points de vue que nous, les réformés, ne partageons pas toujours. Deux en particulier. Le premier qui consiste à faire de l'auberge, c'est-à-dire de l'Église, le lieu unique de la rédemption, de la guérison, a conduit à l'affirmation « hors de l'Église, point de salut ». Le second va et fait de même, a parfois été invoqué pour lier le salut à l'accomplissement de bonnes œuvres. Nous en connaissons les limites. Mais au-delà des interprétations que cette lecture a occasionnées, je crois que nous devons néanmoins être reconnaissants à Origène d'avoir inauguré un regard sur le texte biblique dont nous ne pourrons plus nous éloigner. Ce regard, c'est celui du croyant qui, en lisant, découvre que cette histoire passée, racontée, écrite il y a bien longtemps, illustrée par une parabole, ne peut pas rester à distance de sa vie, de ma vie, de notre vie, aujourd'hui et maintenant. Mais dans une étonnante proximité, vient la bousculer, l'interpeller, la convoquer. Origène nous dit que le texte biblique ne cherche pas tant à nous transmettre des vérités, mais à faire surgir en nous la vérité de nos vies. Ouvrir la Bible, ce n'est pas enregistrer un nouveau savoir, mais c'est se mettre en route sur un certain chemin. Alors, vous pensez que je ne vais pas en rester à Origène. Je voudrais donc maintenant avec vous relire ce texte et y discerner quelques balises sur ce chemin que nous avons à parcourir. En relisant l'envoi des 72 en mission, c'est le petit texte que j'ai lu, on perçoit l'urgence qu'il y a à annoncer le royaume. Et c'est pour cela que Jésus ordonne à ses disciples de ne pas s'arrêter en chemin pour saluer quiconque. Il n'y a en effet aucune nécessité de s'arrêter auprès de celui qui n'attend rien. L'urgence n'est pas dans les mondanités, mais dans la guérison des blessures. Et c'est bien ce que notre texte du jour indique. Car ici, par contre, il y a urgence à s'arrêter. Il y a urgence à se faire proche de celui qui, démuni de tout, attend sur le bord de la route que quelqu'un veuille bien se détourner de son chemin bien tracé pour venir à lui. Je me suis longtemps demandé pourquoi le prêtre et le lévite ne s'étaient pas arrêtés. Étaient-ils pressés? Avaient-ils un rendez-vous urgent? Cela n'est pas dit, alors que d'autres textes de la Bible parfois le précisent quand quelqu'un ne répond pas à l'appel du Christ. Avaient-ils peur, en s'attardant, d'être victimes eux-mêmes de brigands? Cela est peu probable, car les prêtres et les lévites bénéficiaient d'une certaine protection, même aux yeux des plus dangereux bandits. Avaient-ils peur d'être agressés par le blessé lui-même dans un ultime sursaut? Ce serait étonnant, il est à demi-mort. Un indice me fait penser à autre chose. Il nous est dit que non seulement ils passent leur chemin, mais qu'ils s'écartent encore plus loin, de l'autre côté de la route. On peut être surpris. Il est vrai qu'on n'est pas habitué à cela dans nos sociétés où les secours sont organisés. On assiste parfois, au contraire, à des rassemblements obscènes de badauds friands du spectacle de la souffrance des autres. Les gens s'approchent pour voir seulement, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être mis à contribution. Mais ici, au contraire, c'est la peur d'être mise à contribution qui domine. La peur, non pas d'être obligé par quelque sauveteur de prêter main forte, mais ici, dans la solitude de ce chemin désertique, c'est la peur d'être pris de compassion. Et c'est pour cela qu'il s'écarte, comme si passer plus près pouvait exercer comme un effet d'attraction, comme s'il y avait une distance critique, un seuil à ne pas franchir pour ne pas entrer dans l'orbite de la souffrance rencontrée. Car finalement, c'est certainement cela qui prévaut. Les hommes ont peur. Ils redoutent de découvrir qu'au fond d'eux-mêmes, il peut y avoir cette exigence qui vient abolir toutes les distances, qui vient bousculer toutes les logiques, qui vient créer un nouvel espace vital pour eux, qui, prisonniers de leurs peurs, de leurs angoisses, avaient patiemment tissé la toile de toutes les assurances, de toutes les sécurités, pour se prémunir contre l'inattendu, pour se protéger de l'irruption, de ce désir impérieux de donner, de secourir, de vivre avec les autres et de souffrir de leur souffrance. Se laisser approcher, se faire proche, ne pas passer de l'autre côté de la route, c'est peut-être bien là ce qui nous inquiète le plus. Car nous savons trop bien que nous pouvons être pris aux entrailles, pris de compassion, dépris de nous-mêmes, dépossédés de notre autosuffisance, de notre égoïsme, lorsque l'autre, dans son attente, fait appel à ce qu'il y a en nous de ressemblance avec ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu dont l'identité est certainement de souffrir avec sa création, avec nous. Et ce n'est pas un hasard si Jésus met en scène un Samaritain pour illustrer cette capacité de s'arrêter auprès de l'autre, sans prendre le risque, sans peur de prendre le risque de la proximité. Car il sait trop bien que le peuple juif, son peuple, porteur depuis des lustres de la foi en ce Dieu qui se déroute pour sauver l'homme, n'a de cesse de résister à cet exode permanent dont il a charge d'être le témoin, en s'entourant de toutes les protections qu'une loi minutieuse a mis au point pour contenir et réguler la compassion. Seul un autre, dans ce temps où les prophètes en Israël ne rappellent plus le sens premier de la loi, dans ce temps où elle a été abandonnée aux casuistes, seul un autre, étranger au système, peut être ce témoin qui force Israël à sortir de lui-même. Et c'est à cela que le Christ veut amener le scribe. Un scribe expert de la loi, spécialiste de la charité bien ordonnée et pourtant quelque part secrètement blessé par une question non résolue. En face de ce jeune rabbi qui parle avec autorité, qui multiplie les guérisons, la vieille question qui entre Israël sera vive. Que dois-je faire de cette promesse d'une vie éternelle dans un royaume où l'amour règne, où la souffrance n'a plus de place? En face de cette question ranimée, il faut faire taire le perturbateur, il faut l'écarter du devant de la scène en lui tendant un piège, en le contraignant au silence. Il faut lui tendre ce piège qui va le discréditer définitivement aux yeux des foules naïves. Mais pour le remettre à distance, pour l'éloigner, pour lui poser la question hypocrite, il faut d'abord s'approcher de lui. Et c'est alors que la situation se retourne. C'est le scribe qui va tomber dans le piège de la rencontre avec le Christ. À sa question, symptôme d'une inquiétude, d'un désarroi, d'une fêlure dans sa vie, le Christ va renvoyer une autre question. Et il ne va plus le lâcher dans son difficile chemin de libération. Comme le Samaritain accompagne le blessé jusqu'à sa guérison, le Christ accompagne le scribe jusqu'à sa vérité. Il le ramène à l'essentiel. Cette loi que la comptabilité officielle détaillait en 613 commandements, cette loi lui apparaît soudainement ramenée à sa plus simple expression, à son cœur brûlant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il y a encore de la résistance chez le scribe. Qui est mon prochain ? Dit-il. Mais Jésus ne veut pas confondre le scribe. Il ne veut pas ruiner sa dignité. Il veut par contre faire littéralement exploser sa vie étriquée pour le conduire à la joie de l'amour gratuit. Et c'est la parabole que nous venons de lire. Qu'est-ce que la vie éternelle, sinon cette compassion qui nous saisit aux entrailles lorsque la souffrance de l'autre se présente à nous? Qu'est-ce que la vie éternelle, sinon cette sortie de soi-même, cet exode vers l'autre, lorsqu'il se présente à nous, lourd et chargé de toutes les attentes? Alors au fond, ce texte, c'est un peu comme des poupées gigognes. Les cheminements s'emboîtent les uns les autres pour atteindre un même but. Le scribe, effrayé par la puissance de la parole de Dieu qui se manifestait en Jésus, voulait la tenir à distance. Mais à travers une parabole prononcée par Jésus ou un autre, un étranger, accepte de se laisser approcher par la souffrance et laisse l'amour gratuit se déployer, le scribe découvre que son chemin est là tout tracé. Et sur ce chemin, il est accompagné par le Dieu de compassion lui-même fait homme, dont il s'est approché et dont il est devenu à ce moment-là le prochain, celui qu'on ne laisse pas sur le bord du chemin sans le secourir. Va et fais de même, c'est la réponse à sa question. Et puis en fin de compte, il y a nous aujourd'hui, ici assemblés, lecteurs et auditeurs de ce texte aux multiples facettes. Et il se trouve dans ce texte une autre question. Jésus demande au scribe, « Comment lis-tu l'Écriture ?» Eh bien, cette question, c'est celle-là même qui nous attend, qui nous atteint aujourd'hui. Comment lisons-nous ce texte ? Ce texte ne nous apprend rien que nous ne sachions déjà, mais il nous demande par contre qui nous sommes. Il veut nous conduire à notre véritable identité, celle qui pourrait nous faire dire que désormais, saisis par la compassion, comme le Samaritain pour le blessé, comme le Christ pour le scribe, et peut-être bien comme le scribe lui-même dans la nouvelle vie qui s'inaugure pour lui, nous n'avons plus peur de laisser le souffle de Dieu inspirer nos vies, bousculer nos pensées, animer nos actions. Alors, mes frères, mes sœurs, mon frère, ma sœur, comment lisez-vous ce texte aujourd'hui ? Vas-tu, pour le tenir à distance, le refermer comme un pieux souvenir? Vas-tu le refermer dans la multiplicité des savoirs qu'on peut élaborer à son sujet? Vas-tu en faire une utopie rejetée à la fin des temps, ou penser qu'il n'est réservé qu'à quelques êtres exceptionnels, ou vas-tu te laisser prendre à bras le corps par lui? Vas-tu le laisser s'approcher de toi, t'arracher à tes propres blessures et le laisser t'envoyer vers les autres qui attendent que Dieu, dans son immense amour, fasse signe à travers ceux qui sont à sa ressemblance? Prends garde à ton pied, dit l'Ecclésiaste, quand tu entres dans la maison de Dieu, car tu ne sais pas où il va t'emmener. Mais j'ai envie de dire aujourd'hui, prends garde à toi, si tu laisses la parole de Dieu, son souffle de compassion t'envahir. Prends garde à toi si tu veux résister. Mais si tu n'as plus peur, si tu sais que le Christ est ton compagnon, qu'il ne te lâchera pas sur le bord du chemin, alors baisse la garde, rends les armes. Le Seigneur te guidera jusqu'à la joie parfaite de la vie éternelle. Amen.